8h33, c'est jeudi, donc on poursuit notre tournée des partis méconnus en vue des élections provinciales de cet automne. Parce que oui, évidemment, tout le monde parle du Parti libéral, de la CAQ, du PQ, de Québec solidaire, mais il y a une panoplie d'autres partis dont on a fait un peu la nomenclature dans les dernières semaines. Et on poursuit ce matin avec le NPD Québec. Vous connaissez le NPD, le parti qui a vécu une vague orange, littéralement, en 2011, puis qui a balayé au fédéral une bonne partie du Québec. Depuis ce temps-là, ben, ça baissait un peu l'engouement pour le NPD, mais entre-temps, il y a une branche provinciale qui est née, et pour en parler, on rejoint le chef du NPD Québec, Raphaël Fortin. Bonjour, M. Fortin.
Bon matin, M. Bouy.
D'abord, pour nous replacer un peu dans le contexte, c'est un parti qui est assez récent, le NPD Québec.
Le nom est enregistré en 2014, mais c'est juste en avril 2017 que le premier exécutif a été élu. Donc, je dirais que le parti a environ un an et demi d'activité réelle. Il y a eu une course à chefferie qui a été partie en septembre 2017 et j'ai gagné la chefferie le 21 janvier dernier.
OK. Le but finalement, c'est de pas nécessairement copier, mais de se calquer un peu sur les autres provinces qui ont le NPD, c'est ça? C'est qu'on s'est dit qu'il y avait une valeur à avoir un nouveau Parti démocrate au Québec?
Effectivement. En fait, c'est pas de calquer les autres provinces, mais tout simplement, on trouvait qu'au Québec, il manquait un parti de gauche non souverainiste. Il y a plusieurs personnes qui, depuis quelques années, pensaient à dire qu'il manquait un parti. Et on a décidé de le fonder, de travailler pour ça depuis véritablement... Je dirais à fin 2016 que le travail a débuté pour faire une vraie assemblée générale en avril 2017. Puis c'est là qu'on peut dire que le parti a démarré.
Donc vous, il n'y a pas de tergiversation. C'est un parti fédéraliste, un parti qui veut le Québec au sein du Canada, c'est ça?
Mais en fait, on est pour un fédéraliste asymétrique, c'est-à-dire que le fédéral respecte les compétences du Québec. Mais j'aime mieux dire de gauche non souverainiste parce que au sein de notre parti, oui, bien sûr, des gens très fédéralistes. Mais il y en a d'autres qui sont pas nécessairement fédéralistes, mais ils n'ont pas envie de tomber dans un débat sur la souveraineté du Québec, de partir en référendum. Je dirais que c'est beaucoup plus modéré l'amour à l'attachement de la fédération. Cependant, ils veulent pas partir du Canada. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux dire un parti de gauche non souverainiste.
Vous dites qu'il y avait de la nécessité pour ça. Est-ce que vous le sentez dans la population? Parce que j'ai l'impression que la gauche est très associée à Québec solidaire, notamment là, au Québec. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a cet appétit-là pour les électeurs, pour un parti qui ne se définit pas comme étant souverainiste à gauche?
Ben, dans les rencontres qu'on fait, oui. Je veux dire, la réalité de Québec solidaire a décidé de faire un virage très souverainiste quand ils ont décidé de se fusionner avec Option nationale. Ce qui fait que maintenant, il y avait juste parti de gauche souverainiste. Alors, pour quelqu'un qui est de gauche, il y avait deux choix. Soit il se pinçait le nez en disant « j'ai pas le goût de parler de souveraineté, mais je vais voter Québec solidaire », ou sinon, décidait « je vote libéral parce qu'on fédéraliste, mais je suis pas nécessairement d'accord avec la vision néolibérale du parti ». Donc, en fondant ce parti-là, on devient une opportunité pour ces gens-là, une option. Je faisais partie, il y en a encore beaucoup de gens qu'on considère des orphelins politiques, et je pense qu'on peut être une maison intéressante pour ces gens-là.
Ça prend quand même du guts là, de se lancer en politique en fondant un parti, en sachant qu'avec le système électoral qu'on a présentement, ça favorise pas les tiers partis. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça puis à prendre ce pari-là?
Les convictions. Je vous dirais, c'est certain que depuis qu'ils ont plus, ils ont changé le mode de financement des partis politiques suite à la commission Charbonneau. Ça a créé un certain cartel des partis parce que les partis avaient déjà de l'argent dans la caisse électorale et maintenant, pour avoir du financement, faut passer au travers d'une élection générale pour débuter. En 2014, les libéraux, à cause des résultats qu'ils ont obtenus, à peu près 40%, ils reçoivent annuellement 4 millions d'Élections Québec. Nous, on se finance seulement avec la possibilité des 100 $ par personne, par parti politique annuellement. Et en année électorale, c'est 200 $. Mais ça demeure qu'on n'est pas, faut être honnête, dans la même ligue au niveau du financement. Mais je pense qu'à moyen long terme, on a vraiment une place sur cet échiquier-là. Surtout que tous les partis ont signé une entente disant faut qu'il y ait une proportionnelle. À part le Parti libéral, évidemment. Mais s'il y a une proportionnelle, ça veut dire que tous les partis vont devoir travailler ensemble. Et là, ça favorise l'entrée pour voter pour des vraies convictions et non stratégiquement constamment. Ça va être pour moi, je suis de gauche, non souverainiste, il va y avoir telle option. Je suis de droite, je suis fédéraliste, il y a telle option. Je suis de droite souverainiste, il peut y en avoir une option. Alors, ça va, c'est juste améliorer la démocratie d'avoir la proportionnelle.
Ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. La problématique, c'est que lorsqu'un parti se retrouve au pouvoir de manière majoritaire, puis même s'il était tenté par la proportionnelle, il va faire, finalement, c'est bien le fun d'avoir les coups des franges. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un parti dans le système qu'on est présentement pourrait proposer ça, puis y aller de l'avant avec une proportionnelle?
Ils ont intérêt à le faire pour arrêter le cynisme de la population. Trudeau avait promis au fédéral en 2015, il a reculé. Et à mon avis, ça paraît pas très bien. Là, la coalition Avenir Québec est premier dans les sondages. On va voir si M. François Legault a une parole s'il se retrouve au gouvernement. Moi, j'espère qu'il va la tenir, mais quelqu'un qui le ferait en ayant gagné une élection avec un système actuel et décide de faire la proportionnelle, à mon avis, gagnerait à le faire, puisqu'il démontrerait qu'il est une personne honnête. Et j'aime pas entendre dire que les politiciens sont tous soit corrompus ou pas corrects, parce que dans la réalité, les politiciens sont le reflet de la population. Il y a du bon monde, puis il y a du mauvais monde, comme partout dans n'importe quelle entreprise. Il y a des gens qui sont là pour leur bien personnel, puis il y en a qui sont là pour le bien de la communauté. Alors, même si je ne suis pas fervent des politiques de la CAQ ou encore des libéraux ou de QS, sinon j'aurais été dans ces partis-là, je reconnais que dans tous ces partis-là, il y a des gens, il y a des bonnes idées. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, que faut arrêter de toujours faire de la démagogie envers tous les partis, mais plutôt de travailler à se dire, il y a une bonne chose qui est faite dans ce parti-là, il y a une bonne chose dans la mienne, travaillons ensemble pour arriver à un résultat pour la population. C'est ce que les gens s'attendent, que les politiciens travaillent ensemble pour arriver à un résultat final et à livrer la marchandise.
Côté nombre de candidats, ça va comment, votre recrutement? Est-ce que vous allez être capable d'en présenter dans la majorité des circonscriptions? Ou...
Faut être honnête, non. On vise plutôt une cinquantaine de candidats. Okay. La réalité avec le financement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est sûr que ça prend des gens d'une grande conviction pour faire une vraie campagne dans notre réalité économique. Mais je pense que en faisant des entrevues comme avec vous aujourd'hui, le monde qui découvre qu'on existe, ça va les attirer. Ah, j'ai goût d'aller les voir. D'ailleurs, notre site web, j'en profite, c'est le www.lenpdq.org. Si vous avez envie de nous écrire, devenir membre ou encore poser des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et vous allez voir, il y a une panoplie de candidats avec des curriculums vitae super intéressants.
Vous avez l'air jeune, je m'excuse de la question, mais le parti ressemble à quoi en termes de personnes, de générations qui sont représentées à l'intérieur?
J'ai l'air beaucoup plus jeune que je suis. En fait, j'ai bientôt 39 ans, même si souvent la plupart du monde pense que j'ai l'air d'avoir 28, 29 ans. Mais je vous dirais que il y a beaucoup de jeunes qui sont membres de notre parti, mais la plupart de mes candidats, c'est des gens, je vous dirais, entre 40 et 60 avec une grande expérience de vie. Juste à Québec, là, je suis fier. Aujourd'hui, on va investir d'autres candidats. Ben, Raymond Côté, qui est mon ancien adversaire à la course à chefferie, okay. Lui, déjà investi, il va être candidat dans Jean Lesage, qui est l'ancien député fédéral. Ouais. D'ailleurs, dans la même circonscription fédérale. J'ai Mona Bello, qui est une femme autochtone, qui a une formation pluridisciplinaire à l'université, dont en études autochtones, en communication, entre autres. Et j'ai aussi une personne d'origine algérienne, M. Hamid Nadji, qui sera dans Jean Talon, qui, lui, a une formation de chimiste en environnement, qui actuellement est courtier en immobilier et aussi également dans Louis Hébert, parce que malheureusement, j'ai eu une mauvaise nouvelle au niveau de la santé. Denis Blanchette ne pourra pas se présenter dans Louis Hébert, mais j'ai une candidate, Caroline Côté, qui est en train de faire compléter, si je ne m'abuse, son PhD, son doctorat en environnement, mais elle travaille déjà dans le milieu environnemental. Alors, j'ai des gens avec des super beaux profils, puis je pense que les gens ont intérêt à vouloir s'informer davantage sur notre parti.
Vous parlez de la région de Québec, beaucoup de candidats. Vous savez que la région de Québec a tendance un peu plus à droite, a tendance à tendre un peu vers les partis de droite. Un peu comment vous voulez vendre la gauche à Québec?
En fait, je vais reconnaître une chose de très positive pour eux, les partis de droite. Ils ont su bien vendre leur politique. En fait, bien articuler leurs idées. Ce que la gauche, au fil des années, a mal réussi. Que ce soit ici ou au Canada ou aux États-Unis, même chose, on le voit, ils ont de la misère à exprimer leurs idées. Et je pense que la meilleure manière de vendre nos idées, ça va être de bien expliquer nos politiques et de voir que les gens ont intérêt à voter pour des partis politiques de gauche qui voient dans l'intérêt collectif. Quand on parle de baisser les impôts constamment, c'est très populiste parce que si on baisse les impôts, ça veut dire qu'il y a moins de revenus pour le gouvernement. Alors, il faut que les gens comprennent que quand tu baisses les impôts, c'est sûr que nécessairement les services donnés par un gouvernement vont diminuer. Parce qu'il faut arriver...
Pas un discours très populaire à Québec. Je vous le dis tout de suite, M. Fortin, là, vous prêchez un peu dans le désert en disant ça à Québec, là, de dire que baisser les impôts, c'est pas bon. Je comprends très bien votre argument, mais c'est ce que je veux dire. Quand vous parlez d'éléments comme ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais la façon que les services sont donnés, c'est pas efficient. Il y a de l'argent qui se gaspille. »
Ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut exprimer comment on va arriver à améliorer avec l'argent puis comment les services doivent être donnés. Je donne un exemple. En santé, il y a énormément d'argent. L'affaire, c'est que la façon que ça a été géré, il y a énormément de gestionnaires et l'argent arrive en bas pour les services, elle est diminuée. Et tout ce qu'on fait, c'est toujours rajouter de l'argent au lieu de revoir la manière que la gestion au niveau de la santé est faite. Ça, c'est un autre débat, mais ce que j'explique, j'essaie pas de prêcher dans le désert. Les gens sont intelligents à Québec comme partout ailleurs. Oui, c'est vrai qu'ils veulent avoir pour l'argent qu'ils donnent des services attendus. Le problème, c'est là que l'erreur et le gouvernement, c'est qu'on demande de l'argent et on donne pas des services de qualité. Mais c'est pas la solution de baisser les impôts parce que les gens qui sont classe moyenne ou en plus fragilisés, quand il y a moins de services, c'est eux qui sont le plus affectés en premier. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Et il y a une loi mathématique, la CAQ, je trouve ça plate, parle de baisser le fardeau fiscal des gens, d'augmenter les services, d'équilibrer le budget. Ça prend pas un doctorat en mathématiques comprendre que ça marche pas, ça peut pas s'équilibrer de cette façon-là. Et ça, c'est faire du populisme. Et ça, à long terme, c'est beaucoup plus dommageable parce que les gens, après ça, vont dire « on croit plus nos politiciens ». Pour les croire, faut être honnête avec les gens.
Sauf que ce que je crois de la perception de la gauche, notamment à Québec et ailleurs aussi, c'est que trop souvent, justement, on accuse les autres partis de faire du populisme, on essaie d'expliquer des choses, mais on n'est pas dans le quotidien totalement de certaines personnes. Bon, là, vous parlez des plus vulnérables, c'est évident. Là, mais les gens de la classe moyenne qui nous écoutent, qui paient énormément d'impôts, déjà. Vous n'avez pas l'impression que de faire dire que si on baisse pas vos impôts, vous allez perdre des services. Pensez pas que c'est justement pour ça qu'ils veulent entendre, justement, puis peut-être que c'est pour ça que la gauche pogne pas chez une certaine clientèle, notamment dans la classe moyenne?
Ben moi, je m'excuse, mais on a chialé sur... On s'est plaint des libéraux les trois premières années où ils ont eu des énormes restrictions budgétaires. Mais ils ont fait ça dans le but d'équilibrer un budget sous le dos des gens, puis là, ils se retrouvent avec des milliards cette année, et là, il lance des propositions, il donne des cadeaux partout. Ça, pour moi, c'est pas une façon de fonctionner. Quand tu as une vision à long terme, tu dis voici où on s'en va, il y aura pas de surprise pour personne. Mais ce que vous me dites là, c'est une réalité. Je veux dire, oui, les gens s'imaginent que si on leur en donne plus dans leurs poches, mais en bout de ligne, là, aller aux États-Unis. Ils payent beaucoup moins d'impôts gouvernementaux, mais l'impôt est privé. Parce que si on le retire du gouvernement, le service, il faut qu'il aille dans le privé. Dans le privé, ils ont une fonction, faire du profit. Un gouvernement, il n'est pas là pour faire du profit, il est là pour amener des services à sa population. Maintenant, c'est à nous de bien expliquer nos politiques. Je suis d'accord avec vous que, historiquement, dans Québec, ça a mal passé. Ils ont l'impression, mais faut pas oublier qu'il y a une majorité de la population aussi qui est employée du gouvernement à Québec. Ils devraient comprendre qu'un gouvernement qui est bien nourri en termes de revenus, ils vont pouvoir avoir, maintenir des emplois aussi dans la région de Québec. Ça fait partie aussi d'une réalité. C'est une capitale, Québec. C'est une région ultra importante au niveau du gouvernement du Québec. Et moi, pour moi, de dire qu'on baisse les impôts, puis en même temps, ben faut dire la vérité aux gens. Si on baisse constamment les impôts, on doit diminuer les services aussi. Ça vient avec.
J'aimerais faire un exercice avec vous, un petit peu comme si on était dans un débat électoral, finalement. Mais là, évidemment, vous n'avez pas d'autres chefs autour de vous, là, mais passez des enjeux, puis vous me disiez un petit peu qu'est-ce que le NPD Québec ferait pour ces grands enjeux, OK? En éducation.
Mais premièrement, moi, je crois, vous êtes d'accord avec moi que les études professionnelles, c'est gratuit?
Oui.
Le cégep, c'est gratuit?
Oui.
Pourquoi à l'université, ça ne serait pas gratuit? Le Danemark le fait. Évidemment, c'est sûr que c'est pas, on doit changer la façon qu'on choisit les étudiants à l'université à ce moment-là. Mais de toute façon, l'université est pas faite pour tout le monde. Faut être capable de valoriser aussi les métiers manuels.
Absolument.
Mais les universités au Danemark, c'est gratuit. Le PIB a augmenté automatiquement. Parce qu'à long terme, c'est payant. Des gens plus éduqués vont se retrouver à avoir des meilleurs revenus, vont avoir aussi des saines habitudes alimentaires. Donc, en santé, on y gagne et en problèmes sociaux, ça diminue. L'université devrait être gratuite. Ça, c'est certain. Pour moi, ça, j'y crois entièrement. Et ça prend des géographes, des philosophes qui gagneront pas des salaires de 100, 150 000 alors que l'image de toujours, l'université, c'est médecins et les avocats. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie aussi avec un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Il faut valoriser ça. Fais pas dire, t'es pas capable d'aller à l'université, ben, fais un DEP. Non. Valorise le métier. En Allemagne, ils font du mentorat. Dès le milieu du secondaire, les gens peuvent expérimenter, travailler dans des entreprises pour les gens qui croient qu'ils vont vouloir faire un travail manuel. Et ça a aidé. L'Allemagne a le meilleur PIB, d'ailleurs, de l'Europe. Je veux dire, il y a une façon de revoir. Mais ça, c'est pas un parti politique de décider cette fonction-là. Savez-vous pourquoi? Parce que je crois qu'il faut dépolitiser l'éducation. Il faut avoir des états généraux et savoir qu'est-ce qu'on veut comme système éducatif, au même titre qu'au primaire et au secondaire.
Donc, sonder la population sur ce qu'ils veulent comme système éducatif.
La population, mais surtout ceux qui sont les acteurs du milieu de l'éducation, que ce soit les professeurs, les étudiants. Généralement, là, c'est toujours un parti politique. J'ai cette idée, on est les meilleurs. C'est pas vrai que la CAQ, les libéraux, QS, ni même l'NPDQ, a la réponse à ça. Ça doit être d'un commun accord pour la raison, pour que ça change, qu'à chaque élection, on dise pas « change tout, fais une réforme », parce que c'est les étudiants qui en font les frais à ce moment-là. Et c'est la population qui paye, puis on change constamment la direction. Faut dépolitiser l'éducation parce que c'est trop important comme...
Parler de réseaux sur le terrain, vous positionnez comment pour les commissions scolaires? Vous disiez qu'il y a beaucoup d'argent qui se ramasse pour les gestionnaires, tout ça, justement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le système de commissions scolaires actuel?
Je crois qu'en région, il y a certainement une étude à voir comment on pourrait s'y prendre, parce que c'est vrai que, exemple, la commission scolaire de Montréal gère un budget de plus d'un milliard de dollars. Maintenant, dans la région, exemple de Montréal ou Québec, il y a assez de population. Est-ce que les écoles pourraient avoir plus d'indépendance? Oui, je le crois. Maintenant, je peux pas dire, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais en région, il est nécessaire d'avoir des commissions scolaires parce que c'est pas vrai que chaque école aurait les moyens d'avoir un orthopédagogue, un travailleur social. Il n'y a pas assez de population pour amener ça. Donc, c'est important qu'une commission scolaire puisse redistribuer les richesses entre les différentes écoles. Maintenant, dans les grandes régions urbaines, c'est clair que chaque école, avec la quantité d'élèves qu'il y a, il pourra avoir plus d'indépendance décisionnelle au niveau financier. Ça, oui, je suis d'accord avec ça.
Vous dites que l'université devrait être gratuite. En fait, ce sera pas gratuit. Ça prend de l'argent pour la faire rouler pareil. Oui. On la prend où, cet argent-là, à ce moment-là?
Bien, je pense qu'il y a des choix politiques qui vont devoir se faire si on fait ça. Ça veut dire voir l'ensemble des revenus de l'État puis où on les met. Mais moi, savez-vous quoi? C'est toujours l'argumentaire de la droite de dire combien ça va coûter. Pourquoi on ne voit pas combien ça va rapporter? Si on fait un choix politique...
Non, ça va coûter avant de rapporter. Là.
Ça, je suis d'accord. Oui, non, mais... Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on m'entend toujours?
Oui, absolument. Oui.
Je suis d'accord avec ce que vous dites qu'il y a un coût à ça. Mais quand on regarde à long terme ce que ça peut rapporter, moi, pourquoi on met toujours l'éducation à dire combien ça va coûter alors que si on fait un choix de société de dire c'est ça qu'on met de l'avant? Priorité numéro un, c'est notre avenir. Mais c'est pas de dire combien ça va coûter, mais combien ça va rapporter. Il y a une étude qui a déjà faite, et là-dessus, je vais donner raison à QS. On augmenterait juste d'1% les impôts, pas des gens, mais des grandes entreprises, et on pourrait se payer l'éducation complètement. Mais ça, c'est un choix politique. Faut le faire. Et il y a aussi des revenus dans l'État qui se perdent, il y a des subventions qui sont données. Exemple, on donne le plan vert. Il est prouvé que la plupart des centaines de millions qui sont dans ce plan vert-là, c'est pour financer des entreprises qui font pas des véritables.
On est d'accord là-dessus.
Alors, si on révise, où il y a du gaspillage d'argent, ça pourrait faire certainement être remis dans d'autres endroits, mais il s'agit juste de faire des choix politiques. Aujourd'hui, je peux pas vous arriver avec le cadre financier, je suis pas assis avec les chiffres, oui. Mais je peux vous dire que il s'agit juste de prendre des décisions, de faire des choix politiques. Maintenant, si on décide, on a bien vu Trudeau qui parlait de déficit de 10 milliards, léger déficit de 10 milliards, si ça passe pour des infrastructures, pourquoi ça ne serait pas pour investir dans nos jeunes puis l'avenir de notre province puis la réussite? Parce que si on a des gens scolarisés et on s'en va vers une économie du savoir de plus en plus, si on a des gens scolarisés, c'est on assure l'avenir de notre province. Si on décide qu'on regarde d'une façon comptable, l'école, faut que ça arrête pas, faut que ça... Toujours de cette façon-là, c'est sûr qu'on n'arrivera pas avec une vision à long terme de réussite. On va y aller avec une vision court terme. Donc, électoraliste, à tous les 4 ans, de prouver que nous, on est capable de balancer un budget. Oui, c'est important de balancer un budget, mais c'est surtout de balancer notre population et de c'est-à-dire que nos jeunes y ont de quoi de réussite, un potentiel de réussite. Et c'est par l'école que ça se passe, la réussite. La valorisation de l'être humain passe aussi par ce que tu réussis à l'école et que tu es dans la bonne école. Parce que quelqu'un qui va à l'université, mais que c'est pas sa place ou qui va dans une technique puis c'est pas sa place, il va plutôt sentir un échec. Et ça, c'est pire. Il faut être capable qu'il sente que c'est valorisé aussi un DP. Les techniques, tous les différents types d'écoles. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis je pense que c'est comme ça que l'NPD...
Donc, remplacer les ressources, puis essayer de valoriser tous les types d'études. En santé, vous l'avez effleuré un peu, là, mais concrètement, qu'est-ce que vous feriez pour réduire le temps d'attente aux urgences puis améliorer l'accès aux services de santé?
Bien, je veux dire... La réalité, c'est qu'on va sortir bientôt la plateforme. On n'a pas les mêmes moyens que les autres parties. Il y a des gens qui ont travaillé depuis 3-4 ans sur des plateformes. Là, on est en train de travailler là-dessus. Mais je peux vous dire que nous, ce qu'on valoriserait, et c'est vrai que l'argent a été trop mis dans les médecins. Et je trouve ça un peu aberrant qu'un depuis plusieurs années, tout ce qu'on valorise, c'est les médecins. Les médecins diagnostiques nous donnent une réalité de notre santé. Mais les personnes qui nous soignent, ce sont les infirmières, ce sont les préposés aux bénéficiaires. C'est eux. Vous avez sûrement déjà été à l'hôpital. Moi, j'ai déjà été hospitalisé. Celui qui prend soin de toi, c'est pas le médecin. Il vient de diagnostiquer, mais les gens de première ligne sont épuisés. Il manque de personnel. C'est pas valorisé. Oui, c'est vrai que Dr. Barrette parle de vouloir engager des infirmières, mais dans le contexte actuel, personne veut se faire engager. Alors, c'est normal qu'il y ait un cercle vicieux. On a prouvé avec les années qu'on les... en fait, qu'on on les traitait comme des employés de second service, alors que c'est eux qui donnent le premier service aux gens. Ouais. Si on est capable de sortir aussi, avoir plus de soins à domicile, il y a des gens qui iront pas aux urgences, qui n'ont pas besoin. Si on fait de la prévention plutôt que la réaction, on va sortir les gens des urgences. Il y a une réalité. Je suis pas magicien à dire ce que je dis, mais depuis des années, tout ce qu'on a comme ministre de la Santé, que ce soit que les libéraux ou le PQ, on place toujours des médecins. Ils ont une vision de médecin. Et c'est normal, je peux pas leur en vouloir. Pourquoi, dans tous les autres ministères, on n'a pas obligé d'un professeur comme ministre d'éducation, mais comme ça prend un médecin pour ministre de la Santé, ça prend surtout quelqu'un de cœur qui est capable d'être à l'écoute aussi. Un politicien, le problème, tous les partis politiques, généralement, essayent de vendre leur salade au lieu d'être à l'écoute de ce que les gens proposent. Je parle des intervenants dans chaque domaine. Moi, je suis pas un spécialiste dans rien. Ma job, techniquement, comme chef de parti politique, c'est de m'entourer de gens qui sont spécialistes dans ces domaines-là pour me conseiller. Et c'est ça qu'on oublie. Les politiciens n'ont pas des réponses à tout. Vous me posez des questions, je peux pas avoir réponse à tout parce que je suis pas spécialiste dans tous ces domaines-là.
Non, mais c'est pour les orientations.
Non, je suis d'accord, mais j'essaie d'exprimer à la population, c'est que mon travail comme chef...
C'est de bâtir une équipe.
De bâtir une équipe et d'être à l'écoute de cette équipe-là. C'est ça le travail d'un politicien, être à l'écoute. Il faut pas oublier que le travail d'un député, c'est d'être représentant de ces gens. Et c'est pour ça que chez nous, NPDQ, moi, à part les grandes orientations qu'on s'est votées le 6 mai, le document qui est sur notre site web, puis la plateforme, les députés vont être libres de s'exprimer sur des enjeux qu'on ne sera pas, même si je suis pas en accord avec.
Pas de ligne de parti?
Là-dessus, non. Puis il y a une raison à ça. Je veux valoriser le travail de député. Actuellement, les députés, ce sont des gens qui vont dire à leur population, voici ce qui est la bonne idée.
Des porte-parole de leur parti plutôt que des porte-parole de leurs citoyens.
Et oui. Moi, en 2015, quand j'étais candidat au NPD fédéral, je faisais du porte-à-porte. Puis ça arrivait que des gens me disaient, j'aime pas ça de votre plateforme. Je leur répondais, ben je suis d'accord avec vous. Là, ils étaient tout surpris. Au lieu d'essayer que je leur vende la plateforme, je disais, je suis d'accord. Ce point-là, je suis d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec ça. Mais quand on regarde l'ensemble de la proposition du NPD fédéral, c'est celle qui me ressemble le plus. Je dis à la population, c'est impossible d'aimer 100% d'une plateforme d'un parti politique. La seule qui va aimer 100% de la plateforme, c'est le ou la chef. Parce que c'est lui qui va l'avoir le dernier mot pour dire oui. Alors, c'est normal qu'on soit pas toujours d'accord avec l'ensemble d'une plateforme politique. Faut regarder ce que l'ensemble nous promet. Pas prendre un enjeu et dire, j'aime ce parti-là à cause de cet enjeu-là. Prendre l'ensemble. La réalité de ce qu'un parti propose comme position. Et c'est là qu'on est capable de se forger une opinion sur lequel des partis nous ressemblent le plus. Puis celui qui va nous défendre plus dans l'ensemble. Et c'est pour ça que je veux que mes candidats, futurs députés, aient une liberté d'expression. C'est sûr que je serai pas toujours en accord. Ça va être dur à défendre devant les médias qui vont penser qu'on a une dissension. Mais non, c'est valoriser le travail qu'il doit faire comme député. Et ça, c'est important, la ligne de parti. Le jour où ce que je vais faire élire des députés avec cette façon de faire-là, les autres partis politiques vont devoir suivre cette ligne-là. Et ça, pour moi, on va remettre le travail de député à l'avant-scène. Pas juste du chef, pas juste des ministres. Les députés ont une grosse job à faire. C'est la courroie de transmission entre les problèmes des électeurs avec l'appareil gouvernemental. Et leur travail, c'est de travailler auprès de ces gens-là. C'est pas de vendre un parti politique. C'est de vendre les problèmes pas vendre, mais c'est-à-dire défendre une population, la circonscription qui veulent représenter. Et ça veut dire, dans un caucus, le défendre coûte que coûte. Peu importe si des fois ça crée des frictions. Et c'est en ça que je crois.
Monsieur Fortin, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Puis je vais vous souhaiter une bonne campagne électorale.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vos auditeurs également. Absolument. Excusez-moi, j'avais lecteur en tête, auditeur.
Ça fait plaisir, M. Fortin. Au revoir. Donc, Raphaël Fortin est chef du NPD Québec, un parti qui peut-être représentera un candidat dans votre circonscription. 8h56.